Merci de rester avec nous sur la fréquence de la paix. Il est 7h15. Nous entrons dans la deuxième partie de notre journal. La sécurité alimentaire est un vrai problème au Sud Kivu. La majorité des produits vivriers consommés à Bukavu proviennent des pays voisins. Le pouvoir public est donc interpellé pour la mise en pratique d'une politique alimentaire correcte pour la survie de la population. C'est le sujet de ce dossier qui porte la signature d'Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Les travaux portent sur la problématique de la sécurité alimentaire pour les petits agriculteurs, de l'éducation ainsi que des violences sexuelles basées sur le genre au Sud Kivu. Pour aborder la question de sécurité alimentaire, Fidel Baribwa Balangaliza, expert, insiste sur les piliers de la sécurité alimentaire qui sont la stabilité, l'accessibilité, la disponibilité et l'utilisation. Il finit par conclure que les problèmes de la sécurité alimentaire se posent encore avec acuité dans la province du Sud Kivu à ces jours.
Pour la sécurité alimentaire au Sud Kivu, on peut dire que la disponibilité alimentaire, la disponibilité à la nourriture, c'est encore un grand problème parce que c'est seulement dans certains coins où on peut dire qu'il y a la disponibilité. Par rapport à l'accessibilité, c'est aussi toujours à de petits coins où on peut encore être sûr qu'on a accès. Par rapport à la stabilité, ça c'est encore un grand problème parce qu'un grand nombre de gens, ils mangent aujourd'hui, mais ils ne savent pas demain s'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et il y a un grand problème aussi qui vaut par rapport à la sécurité nutritionnelle. Le bar sont au rouge.
Cette situation se justifie par la multiplicité des contraintes auxquelles on est exposé au Sud Kivu. Il s'agit de l'insécurité, la rareté des intrants, la manipulation politicienne, le délabrement des infrastructures routières, la rareté des terres arables ainsi que les conflits de pouvoir coutumiers. José Emina, leader d'opinion, pense que l'insuffisance alimentaire actuelle au Sud Kivu est tributaire de l'absence du pouvoir de l'État.
Quand la politique ne va pas bien dans les pays, rien ne peut aussi aller. On ne peut pas parler d'une insécurité alimentaire, alors qu'on a de difficultés énormes d'atteindre les lieux comme Shabunda, on ne peut pas aller à Ninja. La province du Sud Kivu se retrouve dans une situation où les routes sont en état de délabrement avancé. Aujourd'hui, toute la province du Sud Kivu, presque, va s'alimenter de l'autre côté de frontière. Donc, Bukavu des années 80 n'est pas comme Bukavu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous cherchons et les poivrons, et les oignons, et même les poissons. La politique actuelle vraiment de la province, je peux dire qu'elle n'est pas à la hauteur.
Et comme solution, Fidel Baribwa propose ceci.
Il faut qu'on travaille au niveau du gouvernement. Il faut qu'il y ait une politique agricole. Vous voyez qu'il y a une perturbation climatique, ça joue beaucoup. L'État doit s'investir dans ces dossiers-là et se dire voilà, pourquoi les gens doivent aller chercher des produits alimentaires au Rwanda pendant que nous en avons ici.
Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu, Radio Okapi.
Revue de presse.
Revue de presse kinoise avec vous, Donna Madimba. Bonjour Donna.
Bonjour Lucie Amba.
Ce vendredi, les journaux de Kinshasa ne s'éloignent pas des incidents survenus mercredi dernier à la prison centrale de Makala.
Eh oui, le ministre de la Justice s'est encore exprimé hier et la presse imprimée de la capitale relate. Le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a visité jeudi la prison centrale de Makala 24 heures après l'évasion de plusieurs prisonniers et du leader du mouvement politico-religieux Ubuntu. Diamayala, Nemwandan Tsemi, rapporte actualité.cd. Les dégâts sont très importants, continue le ministre de la Justice selon actualité.cd. La seule chose positive, c'est que les dossiers des prisonniers qui ont fui sont restés intacts. Les deux greffes aussi. Forum des As détaille un peu plus, constatant que malgré l'intervention du ministre, des nombreux points restent encore flous. Le nombre de morts ne semble pas avoir été donné. Les sources ne se mettent toujours pas d'accord sur le nombre d'évasions. L'ONG congolaise à Cage, selon Forum des As, parle de 1000 à 2000 évadés, TV5 4000. Thambwe Mwamba persistant à signer que Bundu Diamayala est responsable de ces incidents. Et le journal L'Avenir de rapporter ce qui pourrait paraître comme un agacement du ministre de la Justice. Je cite « Il n'y a que les idiots qui pensent qu'il s'agit d'une mascarade ». Bruno Tshibala, désormais depuis hier, en possession de son fauteuil de Premier ministre à Kinshasa, la remise et reprise entre lui et son prédécesseur ayant été organisée. Et le journal La Prospérité de se soulager, je cite, d'ici fin 2017, Bruno Tshibala au travail. Fin de citation.
L'invité.
Les réfugiés rwandais qui ne pourront pas être rapatriés au 31 décembre 2017, selon la clause des cessations de la Convention de Genève, garderont leur statut de réfugiés en territoire congolais. C'est ce qu'indique un expert du HCR dans un entretien à Radio Okapi. Olivier Guillaume Baer est l'invité de ce journal. Il répond aux questions de Jean-Pierre Ilali Ikoko.
Au 31 décembre de cette année, selon la clause de cessation du statut de réfugié, le HCR, en accord avec les gouvernements congolais et rwandais, ils vont mettre fin au rapatriement des réfugiés rwandais. Comment alors le HCR prépare-t-il ces rapatriements par rapport à ces deadlines?
Je voudrais d'abord préciser que en octobre 2009, le HCR a annoncé une stratégie visant à mettre fin à la situation des réfugiés rwandais qui avaient fui leur pays avant le 31 décembre 1998. Et cette clause de cessation, elle est prévue dans la Convention de Genève de 1951, relative au statut de réfugié, également dans la Convention de l'OUA. Le HCR l'a invoquée, ainsi que plusieurs pays de la région, mais la République démocratique du Congo n'a pas encore invoqué la clause de cessation. Cela veut dire que, contrairement à d'autres pays, après le 31 décembre 2017, les réfugiés rwandais en République démocratique du Congo seront toujours des réfugiés au sens de la Convention. Cela veut dire que, compte tenu du grand nombre de réfugiés rwandais en République démocratique du Congo, 245 000 selon les estimations du gouvernement, vous savez que c'est le plus grand nombre de réfugiés rwandais dans un pays, il y a de fortes chances que certains désireront encore se rapatrier au-delà du 31 décembre 2017. Et le HCR continuera de faciliter ce rapatriement qui est volontaire lorsque ces personnes se présenteront à nous.
Parlons maintenant de l'évaluation du rapatriement. Il y a, vous l'avez dit, 245 000 réfugiés rwandais en RDC, selon les recensements de 2014 et de la Commission nationale pour les réfugiés qui représente bien sûr le gouvernement, dont 42 000 au sud Kivu. Alors, combien de réfugiés rwandais ont-ils été rapatriés à ce jour et combien il en reste, Olivier?
Juste une précision, les 245 000, c'est un enregistrement du gouvernement. Et par après, nous avons fait un enregistrement biométrique avec le gouvernement. Mais pour des raisons de sécurité, nous n'avons pu vérifier biométriquement.
Lorsque vous dites « nous », c'est les HCR, c'est ça?
Non, c'est le gouvernement qui enregistre les réfugiés en République démocratique du Congo avec le soutien du HCR. Compte tenu des problèmes d'accès à l'est de la RDC, les problèmes de sécurité, nos équipes ont été attaquées deux fois, nous avons dû suspendre cet enregistrement biométrique. Cet enregistrement biométrique a pu enregistrer 42 000 personnes. Donc les 42 000, ce n'est pas la population des réfugiés rwandais au sud Kivu, mais c'est plutôt les personnes qui ont pu être enregistrées biométriquement avec empreintes, photos, etc. Mais dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, ce n'est pas la population des réfugiés du sud Kivu, c'est le nombre de personnes enregistrées biométriquement. Alors, parmi tous ces réfugiés rwandais qui se trouvent en République démocratique du Congo, cette année, pour être précis, nous avons pu en rapatrier bien 1386 entre janvier et avril 2017. Mais le total, depuis qu'on a commencé à rapatrier des réfugiés rwandais vers le Rwanda, c'est-à-dire début de l'année 2000, nous en avons rapatrié avec le gouvernement 195 164.
Quelles sont les conditions d'accueil de ces réfugiés rapatriés au Rwanda? Je veux parler de l'assistance, de la sécurité et même des infrastructures.
Ces personnes qui sont rapatriées au Rwanda, d'abord, elles sont transportées par le HCR jusque de l'autre côté de la frontière. Et lorsqu'elles arrivent au Rwanda, elles sont hébergées dans des centres de transit. On vérifie d'abord qu'elles sont bien des Rwandais et qui étaient des réfugiés. Ensuite, ils reçoivent 250 dollars par adulte et 150 dollars par enfant.
Qu'adviendrait-il au cas où certains réfugiés ne seraient pas rapatriés à la date du 31 décembre de cette année?
Donc, comme je l'ai dit, étant donné que la République démocratique du Congo n'a pas invoqué la clause cessation, après le 31 décembre 2017, ces personnes seront toujours considérées par la République démocratique du Congo comme des réfugiés et toutes les solutions durables qui s'offrent aux réfugiés peuvent s'ouvrir à eux. Ces solutions durables sont le rapatriement, celle dont nous parlons, mais également l'intégration, dans le pays où ils ont choisi de vivre. Certains d'entre eux vont peut-être décider de ne pas retourner au Rwanda, peut-être qu'ils ont épousé des Congolaises, ils sont nés ici, et ces gens vont peut-être demander à rester en République démocratique du Congo.
Vous parlez tout à l'heure de l'intégration. Certains incidents enregistrés dans l'est du pays lors des enrôlements ont impliqué des sujets rwandais. Est-ce qu'il y avait aussi des réfugiés rwandais?
En théorie, un réfugié ne peut pas s'enrôler pour obtenir une carte d'électeur ou pour voter puisqu'il est un étranger. Les étrangers, selon la loi électorale congolaise, ne peuvent pas être enrôlés. Notre sensibilisation, tant du gouvernement, notre partenaire, la Commission nationale pour les réfugiés, que du HCR, est de dire aux réfugiés, vous n'avez pas à vous enrôler, vous n'êtes pas des citoyens congolais. Et ceux qui le feraient seront exposés à la loi congolaise, donc ils auront commis une infraction.
Monsieur Baird, Radio Capi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Okapi Sport.
Bonjour Kanish Mukongo Chambouyi.
Bonjour Lucien Mba, bonjour amis sportifs.
La 53e édition de la Coupe du Congo de football.
Bien sûr, nous en parlons avec la poursuite de la phase de poule au stade du 30 juin de Kikwit. L'équipe locale de l'AS Vituka s'est fait accrocher par DCMP de Bumba, match nul de 1 but partout. Défaite des Renaissances de Kasangulu face à l'équipe de Rangers de Kinshasa, 1 but contre 2 pour Pichu Liambi, entraîneur adjoint de Rangers. L'objectif était d'empocher 3 points.
Le match était vraiment très, très difficile, mais avec les entraînements que nous avons donnés, les joueurs ont respecté leur briefing, comment ils ont joué pendant les heures de match, et nous avons gagné pour 2-1.
De son côté, Baudouin Lofombo, entraîneur de Renaissance de Boum, Renaissance de Kasangulu, accepte la défaite et l'élimination, mais compte faire mieux l'édition prochaine.
Donc, c'est une jeune équipe. Mais ils ont quand même opposé une résistance face à Rangers, champion de l'Écosse. Je ne peux que jeter le fleur à mes poulains.
Vous êtes éliminé?
Nous, on est éliminé, mais ce n'est pas la fin du monde. On a seulement voulu tenter cette expérience et ça ne nous a pas souri. Je crois que l'année prochaine, nous serons en mesure d'affronter toutes les équipes.
Le deux entraîneurs joués au téléphone par Nanambala Akolezi, US Panda de Likasi, a battu l'AS Malolé de Kananga sur un score lourd de 4-0. Le programme de ce vendredi prévoit un match entre Océan Pacifique de Mbujumaï et Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi à Kikwit. Les deux équipes de Kinshasa vont s'affronter. Il s'agit bien de MK et le Racing Club de Kinshasa RCK. Ligue nationale de football, l'INAFOOT, l'AS Vita Club reçoit cet après-midi la formation des CS Don Bosco de Lubumbashi au stade de Martyrs de Kinshasa. Match en retard de la 10e journée de la phase de play-off du championnat national de football, la Division 1. Par ailleurs, le derby sud-kivusien entre Ose Mungano et Bukavudawa aura lieu le mardi 23 mai au stade de la Concorde de Kadutu. Et le même mardi au stade de Martyrs, ça sera le tour d'FC René Naissance du Congo d'offrir son hospitalité à CS Don Bosco dans le cadre de la 6e journée match en retard. Et puis au Nord Kivu, l'AS Bwendera de Goma a validé hier jeudi son billet pour affronter la grande finale du championnat provincial de football qui se jouera au stade Matokeo de Butembo. C'est après avoir battu Esso Kozaki de Butembo au tir au but 4 contre 2 après un nul de 1 but partout. Dans l'autre demi-finale, 100% Goma tracienne, c'est soldé donc en faveur des Kabacha face à Mont-Rwenzori, 2-0. La finale se disputera donc entre l'AS Bwendera et l'AS Kabacha, toutes deux équipes de Goma. Autre chose, le Standard de Liège a officiellement levé les options de prêt de trois joueurs prêtés de Mazembe, Jonathan Bolingui, Christian Luindama et Merveille Bope Bokadi. Les trois léopards ont su convaincre la direction de leur offrir un contrat, mais la durée n'est pas révélée par le club belge. Selon nos confrères de la dernière heure, ils en coûteront donc au Standard à peu près 500 000 euros pour les défenseurs, le milieu et l'attaquant de tout-puissant Mazembe. On termine par le basketball. La deuxième phase de la Ligue provinciale de Kinshasa se poursuivra aujourd'hui, donc ce vendredi, au Stadium des Martyrs avec deux matchs de messieurs, Molokai DCMP, Jeunesse Avenir, Bel Air.
Merci Kanish. Voilà donc qui met un terme à ce journal qui a été coordonné par Noëlla Luzituka Bambi sous la supervision des Pelé Kipela Mondo. Sylvain Matundu était à la mise en onde.